Agora Côte d'Azur présente Les copains d'abord.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la toute première émission de cette nouvelle saison des copains d'abord sur Agora Côte d'Azur, votre émission mensuelle dédiée à la bonne humeur. On est tous super méga contents de vous retrouver. Oui. Les membres de cette équipe sont magnifiques ce soir. Ils ont tous survécu à l'été et à son régime hyper protéiné à base de chipot merguez. Enfin, certains plus que d'autres, n'est-ce pas mon David?
Absolument.
Ça commence fort.
Je revendique.
Vous l'aurez compris, donc c'est le moment pour vous de relâcher la pression et d'oublier vos petits tracas de la journée pour un voyage d'une petite heure de positive attitude avec Carole. Bonsoir Carole.
Bonsoir Thierry, bonsoir tout le monde. Je suis trop contente de revenir, vous m'avez manqué.
Eh bien, ça se voit.
Voilà.
Alors, elle a des talons, une petite, un petit short, un petit haut léopard. Elle a oublié que l'émission n'était pas filmée.
Comme d'hab.
Bonsoir Léa.
Salut à tous.
Alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer ce soir?
Alors, il y aura une petite insolite et je vais vous parler d'un fléau qui est...
un fléau vraiment
pour tout le monde. Je vais parler de la transpiration. D'accord. Voilà, on va aller creuser sur la thématique de la
transpiration. C'est pour ça que tu scrutais nos essais depuis tout à l'heure. J'ai bien compris. D'accord, il y a forcément un lien.
Exactement.
On a aussi David dans l'équipe.
Bonsoir.
Notre Davidou.
Bonsoir à tous. Ce soir, alors j'ai vu tellement de chaussettes sandales cet été que je vais vous parler de l'Allemagne.
Voilà. Voilà. Il y a aucun rapport. Hein. C'est vrai, comme chaque année, ils envahissent nos plages, notre littoral, donc il faut en parler. Impeccable, David. On a vraiment hâte de t'écouter. Alors ce soir, on a aussi la chance de recevoir un invité tout à fait exceptionnel en la personne de Monsieur William Motti, ex-athlète français du décathlon qui a participé aux JO de Los Angeles et de Barcelone et que Carole va cuisiner tout à l'heure pour son interview. Bonsoir William.
Bien, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Grand plaisir.
Eh bien, on est très contents aussi. Donc l'occasion pour nous de retracer ton parcours et d'évoquer avec toi donc les JO de Paris qui nous ont fait vibrer pendant plusieurs semaines et la place du sport dans notre belle France. Mais sans plus tarder, avant de retrouver David et son voyage au bout des mots, on va s'écouter le titre Supersonic du groupe Oasis avec les frères Gallagher qui ont eu la bonne idée de se rabibocher très récemment et qui vont repartir en tournée dès 2025. À tout de suite, on se retrouve juste après.
Ce soir, vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
I need to be myself.
ce soir. Dans Les Copains d'abord, David dans Voyage au bout des mots.
Ce soir, nous faisons un tour en Allemagne. Mais pour tout l'or du Rhin, je vous préviens, n'essayez pas de me faire prendre de la poudre de Berlin. Tintin.
Il attaque fort.
Ça commence fort.
Entre nous, on ne va pas se mettre Merkel en tête. Hein. Alors ça tombe bien, car j'ai plein d'anecdotes sur ce pays. L'Allemagne est le pays des philosophes qui dorment dans des niches et des musiciens qui cultivent Mozart et Hesse en tapant sur le tambour. Alors moi, quand je vois Ursula, j'ai envie de lui pincer les tetons. Oui, je sais, c'est dégueulasse, mais si je suis un peu germanophile, je dois être aussi sûrement gérontophile. Muel que Papa Scholz et son stalag, non? Mais je n'ai rien inventé. On fait l'amour sous le porche de la porte de Brandebourg. Parfois, on entend dans un soupir « Best again, Nina, que je tâte ». Ça, c'est pour les vieux. Dans certains landers, on entend encore chanter « Si, Sax and Son ». Et oui, en Allemagne, Hambourg comme des bourrins. Les marques allemandes brillent sur les routes. Sur les murs des villes, Steffi Graf, afin de masquer les brèches et les affiches Helmut Kohl. Oh, la bonne odeur. En cuisine, Marlène Dietrich, la truite de Schubert, et on vit à l'ombre de Derrick. Oui, Der Kommissar, c'est lui.
Les vacances t'ont profité de
Je me suis mis à la musique. Quand la bière est tirée, il faut la boire. Et après avoir bu, les Allemands admirent la chute de reins de leur campagne. Lors des fêtes de la bière, ils célèbrent le brassage des populations où l'houblon croise la brune de Munich. Les Allemands aiment l'ordre et marchent au pas de loin. Car ils avaient la foi grasse envers un type qui a fait fureur. Ils sont si ponctuels qu'ils ont inventé la guerre éclair. Les Allemands sont d'ailleurs venus souvent en vacances chez nous. Il faut dire qu'à l'époque, ils étaient blindés. Et ils viennent beaucoup chez les Germains. On aime Goethe au pays des Goths quand le journal d'Anne Frank s'écrit avec une triste encre vert de gris. Elle aurait tant aimé cueillir la rose blanche. On comprend pourquoi Eva et Adolphe ont choisi le suicide. Parce que si elle avait la peau très rêche, elle s'est rendue compte qu'il était vraiment bon à rien. À la mort du Kaiser, alors le vrai Kaiser Beckenbauer, on entendait les gens dire « Ne l'appelez plus jamais Franz !» Je me suis lâché.
Tu fais bien.
Afin de savoir qui avait la meilleure recette de saucisse, les Allemands ont ensuite décidé de se faire la guerre entre Visigoths de l'Ouest et Ostrogoths de l'Est, ce qui entraîna un magnifique concours de saut à la perche au-dessus d'un mur. Ceux de l'Ouest étaient également jaloux de l'ingéniosité de ceux de l'Est, car ces derniers construisaient des trabants avec deux pots d'échappement. Comme ça, on pouvait aussi s'en servir de brouette. Mais tout cela est parfaitement expliqué dans l'excellent recueil historique Astérix chez les Goths. Savez-vous que le nom le plus répandu est Schmitt?
Non.
Et que la plupart des gens qui portent ce nom sont majordomes? Car c'est bien connu qu'il me sert Schmitt.
C'est horrible.
En vacances, les Allemands aiment la montagne, surtout les pilotes. Regardez Schumacher et Lubitz, le pilote de la Germanwing. Quel malheur. Elle est si mince, la frontière entre la malchance et la folie. C'est ce qu'on appelle la roue de l'infortune. Connaissez-vous les frères Grimm? Non, je vois bien.
Dit-il en regardant les filles, hein, parce que moi, évidemment, que je connais aussi.
Je ne regardais pas vous, je savais. Ils ont écrit de nombreux contes, dont Blanche-Neige, Cendrillon ou Réponse. Eh bien, ils n'ont pas touché à Marc, car en Allemagne, le Grimm ne paye pas. Tout cela à une époque où nous avions le Francfort. Les Allemands sont, dit-on, portés sur le sexe. L'avantage, si on rencontre 6 Allemandes qui aiment le sexe, c'est qu'on peut bricoler. Et oui, on aura 6 sauteuses Bosch. Il y a de tout chez les femmes allemandes.
C'est du n'importe quoi.
Absolument. Il y a de tout chez les femmes allemandes. On trouve la grosse Bertha, mais aussi les canons de Pachelbel pour nous faire voler sur les ailes du désir. Oh. Les hommes, eux, avancent bite au vent.
C'était poétique, puis d'un coup.
Oui, on a baissé en qualité.
Attention, si vous croisez une Gretchen et si elle est très baraquée, surtout regardez bien sa pom-pom-pom-pom d'Adam. Oui, je suis bien amusé, je dis.
C'est là tu la factureras pas. Hein.
Ah non, pas du tout. J'ai moi-même eu la chance un jour de chevaucher une Valkyrie. Hélas, et c'est la fausse de personne, maintenant je ne connais que le crépuscule des vieux. Il est de bon goût de caresser les Allemandes dans le sens du poil, qu'elles ont aux pattes comme sur les aisselles. On connaît bien la forêt noire, où on peut entendre le Brahms du cerf, même si la plupart des Allemandes sont blondes comme leur bière. Oh, Wiedersehen, ami, je baisse le rideau de fer et n'oubliez pas, comme le chantait Barbara, que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen.
Merci. Magnifique chronique pour une bonne petite rentrée.
Ah oui, c'est très, très beau, très beau. Très mignon.
Et on va tout de suite retrouver Carole avec son interview.
Ce soir, vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
Ce soir, on avait envie d'être en raccord avec l'actualité sportive de ces deux derniers mois. C'est pourquoi nous avons la chance de recevoir William Mauty, ex-athlète français du décathlon, qui est clairement l'une des épreuves les plus exigeantes et les plus difficiles puisqu'il faut concourir dans une dizaine de disciplines. Alors le but, hein, être bon partout ou exceller dans deux ou trois disciplines permettant de rafler un max de points afin d'équilibrer avec celles sur lesquelles on est le moins à l'aise. Alors William, tu as été deux fois finaliste.
La définition, elle est bonne.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est parfait, la définition, c'est très bien.
Ah ben, merci. Merci Thierry pour l'écriture.
Il n'y a pas de souci.
Voilà. Donc William, tu as été donc deux fois finaliste du décathlon sur des Jeux Olympiques. Une première fois à Los Angeles en 1984. Tu termines cinquième sur, je crois, 26 compétiteurs. Tu y remportes l'épreuve du disque avec un lancer à 50 m 92.
Oui, qui à l'époque était le record olympique. Donc c'était une petite fierté parce que j'avais juste 20 ans à l'époque.
Ah oui.
Donc je découvrais les Jeux Olympiques, je découvrais le monde international de l'athlétisme et là directement aux Jeux Olympiques pour la première grande compète, c'était chouette.
Ah bah oui, c'est sûr. Une seconde fois aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92, tu accèdes à la 7e place je crois sur 28 athlètes et tu y remportes cette fois-ci l'épreuve du javelot avec un G à 67,60 m.
Ouais, exact.
Ouais. Sacré G, William, mais j'ai jamais eu aucun ex qui a fait autant, donc bravo, toutes mes félicitations. porte-drapeau de l'équipe française au championnat du monde de Rome en 87.
Ah oui, tout à fait.
Moi je dis la classe, bravo aussi.
Ouais, merci.
Et tu termines donc à la 10e place. Bon, maintenant on a planté le décor, on va mettre place à l'interrogatoire et ne t'inquiète pas William, tout va bien se passer.
D'accord, ça fait peur quand même.
Il n'y a aucune pression.
Sauf le G.
Il a peur mais il sourit. Donc
il sourit.
Surtout interrogatoire, on a fait une petite chronique sur l'Allemagne avant.
Tu sens que ça peut être rude derrière.
Alors William, est-ce que tu penses revenir rapidement sur ton parcours en tant que décathlonien et qu'est-ce qui t'a finalement attiré vers cette discipline si exigeante et si polyvalente?
En fait, quand j'étais beaucoup plus jeune, mon grand frère Eric était déjà décathlonien et était en équipe de France. Donc il avait 18 ans, moi j'avais juste 11 ans. Et j'ai commencé à le suivre sur les pistes. Et c'est ce qui m'a donné goût à commencer à toucher à tout, d'autant que mon père nous entraînait. Okay. Donc à partir de là, j'ai suivi les traces de mon grand frère. Okay. Et puis c'était parti, à 14 ans, j'étais champion de France. Et c'était le début de, le début de l'athlétisme. En parallèle, j'ai toujours joué au handball. Parce que j'ai toujours aimé jouer au ballon avec les copains, parce qu'on joue, en athlétisme, on joue pas, on s'entraîne, c'est dur, c'est différent, c'est bien, mais quand on gagne, c'est pour soi. Alors que quand on gagne au handball, c'est toute une équipe. Et donc d'avoir pu vivre un peu les deux en parallèle, voilà, ça c'était très 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 bien aussi, un équilibre.
En tout cas, c'est vraiment une histoire du coup de famille, parce que c'est eux qui t'ont vraiment donné l'envie.
Complètement. Et en même temps, je suis aussi allé vers le décathlon, parce que le décathlon, c'est comme une grande famille. Pendant les compétitions, on est ensemble. À la fin des Jeux, on l'a vu encore à Paris, et comme dans tous les Jeux Olympiques, à la fin, tous les athlètes font le tour d'honneur ensemble. Tout le monde on est vraiment, c'est une famille. Donc, et c'est un peu collectif.
Mais quand tu regardes les épreuves, c'est vrai, à la télévision, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a moins on sent effectivement qu'il n'y a pas d'individualité. Et peut-être qu'effectivement, on sent peut-être les athlètes, même si, évidemment, qu'ils sont les uns contre les autres, mais on sent vraiment qu'il y a vraiment ce que tu disais, un sentiment vraiment de...
Complètement, parce qu'on n'est jamais le plus fort partout.
Ouais.
Sur 10 épreuves, automatiquement, il y en a une, on va, comme tu disais tout à l'heure, exceller, on est très très fort, sans hauteur, pour moi, je sautais 2m22, donc souvent je gagne, le javelot je gagne, le disque je gagne, mais à la perche, je vais prendre une rousse, donc je peux pas me prendre pour qui je suis pas, parce qu'il y a un endroit ou un autre où je vais derrière. Peut-être qu'aux 400 mètres, je vais être devant, mais 1500 mètres, les gars, ils vont... Donc, il y a toujours le respect.
Et une fraternité entre vous, en fait.
Ouais, 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 beaucoup de respect, d'humilité. Et...
Déjà, il faudrait peut-être dire les épreuves qui composent le décathlon, parce que il y a des épreuves énormes sur deux jours, en plus.
C'est sur deux jours.
Sur deux jours.
La première journée, c'est toujours dans le même ordre. On commence avec le 100 mètres. Après, il y a le 100 longueur, le lancer du poids, le 100 hauteur et le 400 mètres. Après, on rentre. On
déjà,
se
tu dors bien.
Ouais, j'allais dire une bonne nuit derrière.
Et sachant qu'en plus, on rentre tard. Après, dans des grandes compétitions comme les Jeux, on finit à 9-10 heures. Le temps de rentrer, manger, etc. On se couche, il est 1 heure. Le lendemain, il faut être à 8 heures près. Donc, ça veut dire qu'il faut être au stade à 7 heures. Donc, on dort que 3-4 heures. Donc, c'est vraiment, c'est éprouvant. Et la deuxième journée, c'est 110 mètres haies, lancer du disque, soit la perche, lancer du javelot et le 1500 mètres. Donc, faut être complet. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est pas nécessairement d'être le très très fort ou le plus fort partout, mais d'être quand même complet. Il faut faire moins de 11 secondes au 100 mètres, presque 8 mètres en longueur, plus de 2 mètres en hauteur. Il faut, voilà, pour arriver au niveau international, il faut être assez complet.
Et essayer de survoler, comme tu disais tout à l'heure, une ou deux, voire trois spécialités pour pouvoir justement prendre un maximum de points.
C'est possible, là, quand on a quel que soit le décathlon, il y a toujours une épreuve ou deux. Ou trois si possible, où vraiment il va être devant et exceller pour récupérer le maximum de points. Et c'est important ce que tu dis, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour être fort, il ne faut pas travailler ses points faibles en disant bah « là, je suis un peu faible, je vais être meilleur ». Non, il faut travailler ses points forts pour que les points forts soient excellents et de plus en plus, et ça va amener les points faibles à
Mais tu dois être hyper fatigué en fin de journée pour arriver à faire de fin de journée.
Il faut savoir que c'est pour ça que quand on voit les décathloniens avant la dernière épreuve, au 1500 mètres, juste avant de partir, on est déjà complètement mort. Ça fait deux jours qu'on est sur le terrain, on n'a plus de jus. Il faut encore courir à fond pendant 1500 mètres. Et c'est pour ça qu'on est vraiment unis, parce qu'on est dans la même galère, ça fait mal, c'est dur, on souffre.
Ah oui.
Voilà, en même temps, c'est du plaisir, hein, faut quand même relativiser. Hein, parce qu'on fait que du sport et c'est chouette. Mais donc, le fait de le faire tous ensemble comme ça, on est vraiment épuisés sur la dernière épreuve. Et à la fin, on est mort.
Alors, je l'ai évoqué dans ta présentation.
Capote.
Je l'ai évoqué donc dans ta présentation. Tu as participé à deux Olympiades, donc en 84 et en 92, en atteignant toujours la finale, hein, ce qui est absolument exceptionnel. Mais par contre, tu n'es jamais monté sur le podium. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience olympique et de ce que cela représentait pour toi en tant qu'athlète de haut niveau?
En fait, ah oui, alors le podium... On monte pas toujours sur les podiums, mais par exemple, quand j'arrive à Los Angeles, avant la compétition, je dois être dans les 15-20e mondiaux.
Ouais.
Donc déjà, de terminer 5e, je bats le record de France.
Ah bah
donc
oui.
Je bats mon
record. C'est déjà exceptionnel.
J'avais juste 19 ans et demi, ou juste 20 ans. C'était exceptionnel. La veille, je vois Stéphane Caristan, qui était de ma génération, qui fait le 110 mètres haies, qui termine 6e. Et je lui dis, oh, mais tu te rends compte, 6e, c'est extraordinaire, tu te rends pas compte, t'as 20 ans, tu fais 6e au jeu. Et le lendemain, je fais 5e. Donc en fait, déjà pour moi, c'était une victoire. J'aurais pas pu avoir de médaille, j'aurais pas pu rêver de médaille. À Barcelone, j'aurais dû avoir une médaille. Savoir qu'avant la dernière épreuve dont je parlais tout à l'heure, qui est difficile, je suis 3e. Si je fais une course normale, je dois être capable de rester 3e, voire 2nd. Sauf que 6 mois avant, j'avais une grosse inflammation, une pubalgie, et j'ai dû être opéré de cette pubalgie. C'est une inflammation des muscles des abdominaux. Donc 6 mois avant opéré.
Le truc qui m'arrivera jamais.
6 mois avant opéré, tout le monde m'avait dit déjà les Jeux Olympiques c'est cuit, t'iras jamais. Tu peux oublier. Donc moi ça m'a motivé plus qu'autre chose. Donc déjà d'y être c'était super. De me retrouver encore une fois dans les finalistes, le 3e avant la dernière épreuve, c'était déjà une victoire pour moi. Donc 7e, 8e, 10e. Pareil, c'était j'avais aucun regret en me disant dommage le podium.
Et puis surtout par rapport au nombre de compétiteurs que vous êtes sur une finale du décathlon. On n'est pas sur un 100 mètres.
Là, il y a 26 ou je crois qu'il y en a même un peu plus, mais c'est les 26 ou 30 meilleurs du monde
qui se tirent
tous la bourre pour être devant.
Donc finir 5e ou 7e, c'est juste exceptionnel quand tu vois en plus le nombre d'épreuves sur lesquelles il faut concourir.
C'est
sur deux jours.
C'est chouette. c'est vrai.
À fond la forme. Alors, on l'a vu ensemble, donc tu as été tout proche de monter sur le podium. Et donc, selon toi, qu'est-ce qui t'a manqué pour décrocher peut-être une médaille olympique, même si tu viens un petit peu d'en parler? Est-ce que c'est une question de préparation, de stratégie ou peut-être un facteur externe comme la pression du jugé ou autre chose, et les conditions de compétition?
Alors, ce qui me concerne vraiment, moi, personnellement, c'est pas la pression, au contraire, parce que chaque fois que je suis arrivé dans des compétitions comme les Jeux, au contraire, ça m'a transcendé.
Tu as connu des athlètes qui étaient contre toi et justement qui avaient cette pression que tu ressentais?
Oui, ou certains, on sait que dans les grandes compètes, ils vont craquer.
Ils sont pas là.
Ils sont pas là, alors qu'avant, ils font des grandes performances. Et le jour J, il y a la pression, il y a les jeux, il y a tout. Et donc, ça fonctionne pas comme ça. Moi, je pense qu'à un moment, peut-être, jusqu'à 84, donc en 84, je fais cinquième, j'aurais pas pu faire mieux, ma préparation était comme il faut. Après, peut-être que il aurait fallu que je m'entraîne peut-être un peu plus. Moi, j'avais tendance aussi à j'avais assez jeune, des qualités innées qui me permettaient d'avoir des bonnes performances. Et des fois, c'est pas toujours bien d'avoir la facilité pour arriver.
Tu veux dire, tu surfais un petit peu sur des acquis, un peu, quelque part?
Oui.
Ouais, ok.
Donc, et je pense que parfois, avec le recul, je me serais entraîné un petit peu plus dur, un petit peu plus sérieusement, alors que je le prenais toujours avec le sourire, c'était la rigolade, c'était, et je pense que j'ai manqué un petit peu,
de
peut-être
rigueur,
pas de sérieux, mais de rigueur, ouais. Mmh. Bravo, c'est le bon mot. Mmh. C'est un peu de rigueur. Mais,
Médaille. Médaille. Ça représente combien de temps les entraînements que tu faisais pour arriver à ce niveau-là?
C'est minimum 3 heures par jour, et puis plus on avance, et puis c'est tous les jours, et puis après c'est 2 fois par jour, puis après il y a la musculation qui en plus, etc. Donc c'est beaucoup d'heures d'entraînement, et puis maintenant, à l'heure actuelle, on s'entraîne beaucoup mieux, la musculation c'est plus pointu, c'est plus précis.
Les programmes ont évolué.
Les programmes ont évolué,
bien sûr.
On fait beaucoup moins, et c'est mieux. Puis il y a tout le sujet médical, qui avait pas, ne serait-ce que des ostéopathes. Il n'y avait pas, donc quand on était un peu tordu, on restait tordu, on faisait aïe, oui, aïe, c'était pas bon. Alors que maintenant, dès qu'il y a le moins de petits trucs, hop, crac, on remet en place, il y a tous les soins à côté.
Il y a des masseurs aussi, tous ceux qui massent. Vous aviez ça à l'époque ou pas?
Il y avait déjà ça. Le kiné qui faisait kiné, massage. Mais bon, par rapport à maintenant, donc toutes ces petites choses, ça a évolué. Après, moi, j'ai eu des blessures, des petites choses qui font la pubalgie.
Je vois quelques cicatrices là au niveau des genoux.
Ouais, des genoux. Hop, derrière les cuisses, j'en ai là.
C'est pas du cinéma tout ça. Hein.
Non, mais tous les athlètes de haut niveau qui s'entraînent, il y a obligatoirement des blessures parce qu'on repousse le corps au maximum.
Bien sûr.
On repousse les limites. On peut pas s'écouter en disant oh, je suis un peu fatigué, ah j'ai un peu mal. Non, il faut s'entraîner sur les douleurs pour progresser.
Oui. Mais le jour où tu t'arrêtes, est-ce que ton corps lâche?
Le jour où on s'arrête complètement au niveau de carrière, ou la carrière?
Oui, en fait, quand ton corps se repose et que tu n'es plus dans le dépassement de tes limites. Est-ce que le corps, il lâche?
Pas tout de suite. Ouais. C'est-à-dire que si c'est quelques semaines, quelques mois, il n'y a pas de problème, on pourrait reprendre. Mais au bout de quelques mois, oui, le corps lâche parce que il a toujours été sollicité, ne serait-ce qu'au niveau du dos. Bon, les abdos tiennent parce qu'on fait plein de sport. Mais le jour où on s'arrête, si on fait plus de travail du tout, on se dit, oh ben là, je suis bien, je suis toujours solide, je suis toujours musclé. Et ça commence à avoir des problèmes de dos, des problèmes de ci, des problèmes de ça. Oui, le corps lâche. Donc, il faut continuer à s'entretenir.
Bien sûr.
Au moins s'entretenir. Je dis pas de faire du sport de haut niveau, mais de continuer à s'entretenir, ouais, c'est important.
Et quel est ton meilleur souvenir de ta carrière d'athlète? Et à l'inverse, peut-être le pire des moments que tu aies pu vivre sur la piste ou dans une compétition?
Le plus beau moment, je pense que la participation aux Jeux de Los Angeles, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Je me rappelle d'un moment précis où j'étais pendant le 100 hauteurs. Il devait être 4-5 heures de l'après-midi. Le stade à Los Angeles,
plein.
C'est le Colisée, il est 80 000 spectateurs. Il est magnifique. J'étais en plein milieu. C'est LA, c'est les palmiers, c'est le soleil.
Oui, oui, oui.
Et je regardais autour, j'avais juste 20 ans.
Puis tu dis, je suis aux États-Unis, quoi. Ouais, 20 ans.
Je suis là, je vois du. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est beau, ça. Quelle chance d'être là. J'étais plus au JO, j'étais. Je savourais le moment, c'était le présent. Et ça c'était un des plus beaux moments. Et peut-être, quand tu as dit tout à l'heure, quand j'étais porte-drapeau de l'équipe de France au championnat du monde.
Oui.
Ça aussi, parce que c'est vraiment une fierté, c'est tous tes pères qui
magnifique.
Te demandent de porter le drapeau.
T'es à la tête d'une délégation de ton pays.
Tout le monde qui demande que ça soit toi qui portes pour rentrer dans le stade. Mmh. Ça, c'était chouette. La pire, c'est toujours quand il y a des blessures que t'es obligé d'arrêter parce qu'il y a une blessure.
Mmh. Ah oui.
Et ça, quand j'ai une pubalgie ou les problèmes aux ischios derrière les cuisses, des petites blessures comme ça, où t'es en pleine forme, tu fais un truc et paf, petit claquage, ou gros claquage. T'es obligé de t'arrêter, t'as envie de continuer, mais tu ne peux pas.
Ouais, t'es frustré.
Cette frustration, elle est terrible.
D'accord.
Et ça c'est les moments, on va dire, les plus difficiles. Mais bon, ça fait aussi partie du sport. C'est ce qui permet de rebondir après, de se préparer encore mieux, de recommencer, de repartir, d'être encore motivé.
Oui.
Parce que j'ai eu la chance d'avoir une carrière assez longue, de pratiquement 81 sur les podiums, au 100 hauteurs avant, jusqu'à 95. Donc ça fait presque 15 ans.
C'est
long.
C'est
une belle carrière.
Le décathlon est une épreuve qui exige donc une maîtrise dans 10 disciplines différentes. Y avait-il une épreuve dans laquelle tu excellais particulièrement et que tu préférais, ou inversement, que tu redoutais?
Oui. Alors, plus jeune, j'étais vice-champion d'Europe de 100 hauteurs. À 17 ans, j'ai sauté 2,22 m, donc c'était vraiment une très bonne épreuve pour moi. Donc, le 100 hauteurs, chaque fois que j'arrivais au 100 hauteurs en décathlon, c'était mon épreuve.
C'était ton dada,
j'étais
quoi.
J'étais chez moi.
Ouais. Ah ouais.
Rapidement aussi, le lancer de javelot, parce que j'ai fait plus de 70 mètres, comme j'ai gagné donc à Barcelone. Voilà, c'est plutôt une épreuve que j'aime, parce que c'est comme pour ça que j'ai joué aussi au handball, j'avais un bon bras. Le javelot, c'est quelque chose de naturel. Tu cours, tu lances, tu vois ton javelot partir.
Ouais.
C'est vraiment plaisant.
Une sensation particulière,
ouais,
en fait.
C'est, ouais. C'est un truc, c'est très plaisant de le voir partir, bien partir, etc. Le disque aussi. Le disque, c'était pas prévu que je batte le record olympique du tout.
D'accord.
J'étais le premier à lancer.
C'est des imprévus.
Oui. J'étais pas aussi fort que ça. Et puis, au premier essai, bim, ça part, record olympique. Il a tenu 20 ans, donc c'était un bon record.
Mais c'est incroyable. En fait, c'est fou parce que des fois, tu te dis, je suis au rendez-vous tel jour.
Oui.
Et finalement, peut-être que le lendemain, ce serait peut-être pas pareil.
Complètement, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est le jour J.
Ouais.
Et même des fois, l'heure H. C'est vraiment le moment. Ça se joue à pas grand-chose. Et la pire épreuve, comme pour la plupart des décathloniens, c'est la dernière, le 1500 mètres. Parce que je mesure 1m98. Maintenant, je dois être à 90-11 kilos. Mais à l'époque, j'étais à 95 kilos, un peu plus costaud, un peu plus musclé. Et donc, 95 kilos, enfin 100 kilos et 2 mètres à traîner.
C'est pas le gabarit pour une distance comme ça.
Pour 1500 mètres, donc c'est dur. C'est très, très dur.
Oui.
On part en étant cuit. Et en plus, il faut se traîner encore les 100 kilos et les 2 mètres pendant...
Terrible.
Ça, c'est mort. C'est voilà, terrible.
Donc, c'est quasiment l'épreuve finalement que tout le monde redoute.
Oui. Pratiquement à l'unanimité. Kevin Mayer, qui est le meilleur du monde, qui est le recordman du monde, notre petit Français qui malheureusement s'est blessé juste avant les JO.
Et qui avait été médaillé d'or au précédent Jeux Olympiques.
Non, il a été deux fois vice-champion olympique.
Vice-champion
et il a
olympique.
Été deux fois champion du monde.
Ouais.
Donc c'est vraiment un grand champion, palmarès exceptionnel. Et même lui, il le dit, le 1500 mètres. Pourtant, il court pas mal en plus, mais il aime pas ça.
Moi, je sais ce que c'est que traîner 5 kilos tous les jours aussi.
Malheureusement, c'est pas sur la piste.
J'imagine que tu as suivi de près donc, les JO de Paris.
Oui.
Qu'as-tu pensé des performances des athlètes français en général, et comment expliques-tu que l'athlétisme français soit un peu à la traîne? Et aussi, je rappelle, une seule médaille pour la France cette année, comme à Tokyo en 2021.
Non, ils n'ont pas fait de... Alors... La plupart des athlètes qui étaient présents ont fait leur performance, donc dans l'ensemble. Donc c'est plutôt positif pour ça. Le problème, c'est que l'athlétisme, c'est pas, pour moi, c'est pas ce que je vois. Le bilan, c'est que c'est pas super attrayant. Donc quand maintenant on a, admettons, un jeune qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui a un potentiel physique, il est grand, il a un bon jump, il saute, il court, 9 chances sur 10, et c'est même mieux pour lui qu'il aille au volley, au handball. Au basket,
oui.
Il va avoir tout de suite à 18 ans, il va être pris dans un pôle, il va probablement très bien gagner sa vie tout de suite et encore plus après.
Oui.
Alors qu'en athlétisme, avant d'arriver, c'est très compliqué, donc c'est pas très attrayant.
Oui.
Donc ceux qu'on garde, c'est difficile. En plus, le système français pour le sport, c'est pas fantastique. Et la plupart, d'ailleurs, celle qui a réussi, qui a une médaille, elle s'entraîne aux États-Unis. Moi, je suis parti m'entraîner aux États-Unis. Ça a été le déclic pour passer du 10-15e mondial, comme j'ai dit avant d'arriver à Los Angeles, à directement dans les 5 meilleurs mondiaux. Parce que aux US, ils mettent tout en œuvre pour qu'on réussisse. Ils te mettent tout sur un plateau.
Le sport prend une grande importance depuis toujours là-bas.
Allez, oui, dès que tu rentres à l'université, tu représentes l'université, tu es la fierté de l'université. On met tout en œuvre pour que tu réussisses. À toi de te bouger, mais alors qu'en France, ils mettent pas tout en œuvre. Au contraire, si tu veux t'entraîner, mais que tu dois faire tes études, on te dit ah oui, mais c'est bien beau le sport, mais tu vas faire quoi après?
Voilà, c'est compliqué. Tu dois trouver tes sponsors pour te payer le billet. Enfin, j'exagère à peine, mais c'est
pas
évident.
C'est difficile. Et en plus, la plupart des bons athlètes, on les perd. Les costauds, ils vont au rugby. Les grands qui sautent, ils vont au basket. Ceux qui ont pareil, qui sont complets, ils vont au handball. Ou au volet, et donc on a plus de sauteurs en hauteur en France maintenant, alors qu'avant on en avait pas mal, parce que maintenant dès qu'il y a un bon sauteur, il va ailleurs.
Du coup, tu veux dire que
il a pas tort.
Bien que l'athlétisme du coup attire moins.
Mais oui,
les jeunes.
Oui, complètement, ça attire moins. Alors au départ, ça peut les attirer, mais si après il y a un peu la discussion de choisir. Même moi en tant qu'entraîneur, quand je vois un athlète, vraiment j'en ai eu une petite comme ça en balleuse qui était très forte dans les lancers, au lancer de poids en cadette, c'est-à-dire vers 16-17 ans, mais qui était aux portes de l'équipe de France de handball, je l'ai poussée à aller au handball, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu vas faire au lancer du poids, même si elle est championne de France, même si elle va aux Jeux Olympiques, on va lui dire super, bravo, bravo ma grande.
Financièrement aussi.
Va travailler chez Decathlon,
à fond la forme.
Mais voilà, alors que cette petite, elle est partie au monde, maintenant elle est professionnelle en Islande, et puis c'est plus le même niveau maintenant. Voilà, donc c'est ça, c'est un petit peu pour ça qu'on manque de plus le sport à l'école.
C'est ce que je voulais aussi te poser comme question, parce que je crois que tu t'occupes aussi d'enfants dans les écoles primaires. Est-ce qu'il y a quand même cet engouement chez les jeunes encore? Justement pour l'athlétisme, parce que bon, Decathlon n'en parlons pas, c'est très compliqué.
Même pour l'athlétisme, pour tous les sports, dans les écoles, oui, il y a l'engouement. Il faudrait qu'après, on ait le temps d'en faire un peu plus.
D'accord.
À Grasse, encore, ça bouge énormément, parce que le maire de Grasse fait en sorte qu'il y ait des éducateurs dans les écoles. Mais il y a certaines villes, même à Cannes, il n'y a pas d'éducateurs dans les écoles, du tout. Donc c'est le prof qui fait sport, c'est-à-dire que 9 fois sur 10...
L'institut ou le prof, l'institut, qui n'a pas vraiment les bases...
9 fois sur 10, il n'y a pas de sport. Donc c'est dommage. À Grasse, non, ça bouge beaucoup pour le sport.
D'accord.
Donc les associations aussi bougent. Donc ce qui fait que ça les amène. Mais après, pour les garder, c'est compliqué. Parce que 9 fois sur 10, pour les garder, ben, à un moment, il y a les études. Et quand ils ont leurs études, il faut qu'ils partent à Montpellier, à Lyon, ou même s'ils vont à Nice, mais ils n'ont pas le temps de faire études et sport. Et donc c'est difficile.
Justement, pour rebondir sur ce que David disait, aujourd'hui tu restes donc très impliqué dans le monde du sport, mais notamment dans la transmission vers les plus jeunes. Et ça, c'est quelque chose de super chouette, la transmission. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes activités actuelles et le regard que tu portes sur l'évolution du sport dans la société française?
Oui, alors moi maintenant, depuis toujours, je suis éducateur sportif, éducateur territorial. Donc là, je travaille pour la ville de Grasse qui m'a recruté il y a 3 ans. Et pour mon plus grand bonheur, parce que ça bouge vraiment au niveau sportif.
Pour Grasse aussi.
Il y a l'adjoint au sport qui bouge, monsieur le maire qui est très sportif, le directeur des sports. Il y a vraiment une équipe sportive, donc ils mettent tout en œuvre pour que dès qu'il y a un projet sportif, tout le monde est toujours à fond, donc ça c'est vraiment plaisant. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. En fait, dès que j'ai arrêté l'athlétisme, mes parents avaient des agences immobilières. Donc la facilité, c'était de reprendre les agences et de continuer dans ce cadre-là. Et en fait, j'ai senti tout de suite que c'était pas pour moi. J'avais besoin de transmettre, j'avais envie et besoin de m'occuper des enfants.
C'est
important. Voulais pas nécessairement être que dans... Je m'occupais déjà des enfants dans le club d'athlétisme à Antibes, mais je voulais le faire avec les enfants dans les écoles. Et donc tout de suite, je l'ai fait, j'ai passé mes diplômes, etc. etc. Et depuis, je ne change pas. J'ai eu la possibilité de monter en échelon, mais d'être dans les bureaux. Non,
t'es je veux être sur ça, le terrain.
La transmission, c'est génial.
Je veux être sur le terrain avec les petits, et je m'occupe toujours des petits primaires des écoles de Grasse. Et c'est toujours un plaisir. Je vais pas au travail, je vais pas au boulot, je vais à l'école, je vais dans telle classe. Tu tapes à la porte, top, tu passes la tête, et les petits font
un petit peu leur héros, quoi.
C'est super. On va au sport, et puis il y a plus de monsieur, il y a plus de rien. Et on arrive en plus, grâce au sport, à inculquer des valeurs de respect,
de partage, de rigueur
qu'il y a plus beaucoup. Entre eux, juste le respect entre eux.
Mais c'est une chance pour eux de t'avoir avec l'expérience que tu as et tout ce que tu as traversé. En fait, il n'y a pas mieux pour...
Très gentil, merci beaucoup. Mais oui, et puis il y a une...
Notre invité est extrêmement humble.
Non, mais parce que moi, ça me plaît, ça me passionne. Mais tous les gens avec qui je travaille à Grasse, qui sont éducateurs, toute l'équipe, et c'est des passionnés. Vraiment, il y a toute une équipe. Et ils sont tous issus d'un sport. Il y a Philippe Morelli qui vient du handball, qui a été professionnel handball. Il y en a, entre autres, je cite que lui, parce que, je sais, ce sont des passionnés. Donc c'est pareil, ils sont comme moi, et on aime ce qu'on fait, vraiment. Je pense que c'est pour ça qu'on le transmet vraiment, parce que on aime ce qu'on fait, on aime les enfants, on aime leur faire du sport, et qu'ils s'épanouissent, pas qu'ils soient bons ou pas bons, juste qu'ils découvrent, et qu'à la fin, ils puissent dire un jour, mon prof de sport était super, puis grâce à lui, j'ai aimé le sport.
Parce que tu as une vraie mentalité d'un vrai sportif aussi, donc la transmission est aussi dans
la transmission, on la retrouve souvent chez les grands sportifs. On a vu l'année dernière Alain Bernard, il était également là-dedans.
Ouais,
il avait le même discours que toi.
Mais Alain, il est chouette, Alain, bien sûr. C'est dans le même esprit. Et des enfants, de temps en temps, grâce au sport, on peut leur dire c'est bien ce que tu as fait. Et en fait, ils te regardent parce qu'on leur a jamais dit c'est bien ce que t'as fait.
Ouais.
À la maison,
reconnaissance.
Mais moi je suis pas bon parce que je suis pas bon en sport. Mais si t'es bon, c'est bien ce que t'as fait.
Bien sûr.
Fait, on leur a jamais dit.
Et ça les valorise et
ça change.
Ça peut changer ta vie.
Bien sûr.
Un prof qui te dit un truc, ça peut te casser comme l'inverse.
Ah oui. Donc, on peut aimer une discipline et être écœuré d'un prof qui nous a,
mais bien sûr,
nous a cassé l'ambiance.
Ça soit le sport ou l'école, et ça peut t'écœurer un prof qui te...
Bah oui.
Donc on essaye de transmettre ça voilà, avec notre...
C'est pour ça que je suis pas allé loin à l'école, c'est à cause des profs. Eh ben en tout cas, l'interview... Oui, dis-moi.
J'aurais juste une question.
Oui, William, bien sûr.
Est-ce qu'il n'y a pas des mouvements antinomiques, par exemple, le lancer de poids avec le disque, quand tu fais le... Parce qu'il n'y a pas des choses gênantes, c'est vraiment à force de s'entraîner, tu as vraiment le mouvement qui vient tout le temps.
Non, ce n'est pas le lancer comme ça antinomique, c'est plutôt, par exemple, le lancer de poids et le sans hauteur. Sans hauteur, il faudrait être plutôt fin, rapide.
Oui.
Le lancer de poids, il ne faut pas être fin et rapide.
Il faut être plutôt, un peu robuste.
Il faut être rapide, mais il faut être costaud. Mmh. Donc si tu es trop costaud, tu ne peux plus sauter en hauteur. Donc ce n'est pas les mouvements poids dit javelot, à la limite, c'est un peu le même genre. Poids 10, même ça se ressemble. Mais c'est plutôt le lancer de poids de 1500 mètres. Son hauteur 100 mètres. Donc il faut trouver le juste équilibre d'être fort, mais pas trop, mais en même temps il faut quand même tenir le coup, il faut être endurant, mais pas trop non plus, il faut être rapide.
Donc, il faut penser aux 1500 mètres.
Et une dernière question, du coup, petit conseil du pro, Léa et moi, tu nous verrais dans quelle discipline?
Alors t'es pas obligé d'être sincère, William, même si c'est une qualité qui te caractérise.
Surtout avant qu'on commence, il nous a demandé si on faisait du sport. Moi je n'ai pas répondu, tu as répondu, donc on va voir si effectivement il arrive à nous mettre dans une catégorie.
Ouais.
Voilà. Alors toi, une catégorie du décathlon du coup,
voilà,
William,
voilà, hein,
on va juste pour le joke.
C'est simple parce que toi je sais que tu fais du volley, donc toi tu seras sauteuse en hauteur ou sauteuse en longueur.
Oui, alors j'ai fait du volley, donc du coup...
Oui, mais... Quand on est international de volley comme toi, on peut.
Merci. Alors, je vois que je suis aussi un
peu. Elle pourra faire du sprint, c'est sûr que du sprint, de la vitesse.
La vitesse. Je suis petite et rapide.
Ouais. Tu prends la ligne d'arrivée avant tout le monde.
David, peut-être le lancer du poids. Je sais pas pourquoi je dis ça.
Vraiment, en plus.
David, il peut être coach. Il est posé, il est en place.
Oui. Moi, c'est il peut prendre très sécurisant. Très sécurisant, très paternel.
C'est Thierry, c'est le partenaire d'entraînement, lanceur de javelot. Je sais pas bien le javelot.
D'accord, ouais. Écoutons.
Comme ça, tu vas nous faire un jet. Voilà.
Je commence avec un cure-dent face à tous les deux.
Si vous voulez, je vous propose à l'occasion, quand ça se goupille, quand vous voulez, on fait une petite séance de, pas un décathlon complet, mais 2-3 épreuves d'athlée au stade.
Vraiment bien.
On pourrait faire du saut à perche. On peut faire un peu de son hauteur, on peut faire du son longueur, on peut faire du javelot parce que c'est rigolo. Pas tout, mais tu vois, quelques petites épreuves.
Le rendez-vous est pris, William.
Et d'ailleurs, on va fêter ton anniversaire du coup en retard.
Parce que comme c'est moi le coach, je vous regarderai faire.
Toi, t'es à la bonne place, hein, finalement.
Merci beaucoup, William, en tout cas. Merci, tu restes avec nous, hein, tu pars pas.
Merci beaucoup, vous êtes adorables.
Merci, William.
Merci à vous.
Alors avant de retrouver mon instant décalé, on écoute tout de suite le groupe Dépêche Mode avec leur titre complètement planant. Precious, à tout de suite.
Ce soir, vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
Precious and fragile things.
I hope it's you.
ce soir. Dans Les Copains d'abord. Thierry, dans l'instant décalé.
Mon cher Thierry,
oui.
Depuis le début de cette émission, il y a dans ce studio une ambiance un peu euphorique, quasi électrique, comme un doux mélange de chaleur et d'excitation qui ne cesse d'augmenter au fil des minutes.
Arrêtez. Écoute, Léa, calme-toi, hein, nos auditeurs pourraient penser que tu es sous substance,
c'est le cas.
En préménopause, où tu as contracté la variole du singe, alors qu'il n'en est rien. Figure-toi que moi aussi, je la sens cette petite excitation dans l'air, et comme par hasard, c'est pile poil raccord avec l'arrivée de ma chronique. Coïncidence, je ne crois pas.
Comme toujours Thierry, je crois deviner chez toi une certaine satisfaction de recevoir un invité de marque en la personne de William Oti, qui a fait les beaux jours du décathlon français. Et donc tu te sens finalement très proche.
Mais c'est rien de le dire, Maléa, et je te remercie d'en parler spontanément, comme d'avoir remarqué ce quasi-mimétisme entre nous, William. Et donc William porte un prénom anglo-saxon tout comme moi. Il a un physique de jeune premier, une vraie gueule d'acteur américain comme moi. Il a participé aux Jeux Olympiques, je suis un champion olympique de la vanne. Bref, quelle sensation agréable de parler d'égal à égal avec notre invité. Sensation qui m'est complètement étrangère quand je m'adresse à vous tous. Et bien que nos parcours fussent différents, gérer à l'année une équipe de branquignoles telle que vous me donne parfois l'impression de participer moi-même aussi à un décathlon. Et j'en ai pour preuve Carole qui, il y a encore quelques jours, pensait que William était tout simplement un employé de cette grande enseigne française Décathlon.
À fond la forme.
Et en ce début septembre, et comme d'habitude, tu souhaites revenir sur l'actualité qui a occupé l'espace sur ces dernières semaines, et notamment les JO de Paris qui ont eu un effet positif sur le moral des Français.
Effectivement Léa, du pain et des jeux, les Romains l'avaient déjà compris il y a 2000 ans. Vous avez remarqué, dès qu'il y a une compétition sportive, que ce soit le mondial de foot, l'Euro, et on l'a vu cet été avec les JO de Paris, on a tendance à se ramollir et à tout pardonner. Hein, si les JO avaient duré 4 mois, ben on aurait pu vivre 4 mois sans Premier ministre, et le pire, c'est qu'on en aurait voulu à personne. Les grands événements sportifs, en fait, nous permettent donc d'oublier nos petits tracas du quotidien. Analyse confirmée par le témoignage d'un de nos plus fidèles auditeurs qui m'a écrit, je cite, « Pendant toute la durée des JO, j'ai oublié que j'étais cocu et cul de jatte. Malheureusement, après les JO, j'ai toujours une jambe plus courte que l'autre. Ma femme est toujours avec mon meilleur ami. Des effets positifs, certes, mais à court terme. Gérard, toute l'équipe d'Agora est avec toi. »
C'est horrible. Les athlètes français paralympiques, comme les valides, ont également fait un carton plein niveau médaille. Et les spectateurs sont venus massivement les encourager. Et on ne peut que s'en réjouir.
Le bilan des Jeux paralympiques et de nos athlètes est effectivement très positif. Et on peut dire, sans trop s'avancer, que tout s'est passé comme sur des roulettes.
Évidemment.
Mais sans mauvais jeu de mots. Mais moi, je voudrais quand même qu'on ait tous ensemble une vraie réflexion dans ce studio. Je ne comprends toujours pas ces athlètes qui ont décidé de se compliquer la vie en participant à des épreuves avec des morceaux en moins. Alors c'est déjà pas facile quand t'es au complet, mais là franchement, vous avez vu les épreuves de natation, notamment ce nageur brésilien incroyable, Gabriel Dos Santos.
Incroyable, je l'ai vu.
Incroyable, ce garçon. Pas de bras, pas de jambes, ou si peu. Des chronos de dingue, 3 médailles d'or. Quand je l'ai vu plonger dans l'eau, j'ai balisé pour lui. J'ai fait 3 Ave Maria et que Dieu te protège.
Non.
Si. J'ai osé la faire. Alors, perso, tu me lances dans les mêmes conditions du plongeoir. Je coule au fond comme un croustibat. Et terminé, bonsoir. Il y a aussi une épreuve qui m'a beaucoup impressionné aussi, c'est le rugby sur fauteuil roulant. Parce qu'elle existe vraiment. Et là, putain, t'avais envie de leur dire au mec, mais pardon les gars, mais ça vous a pas suffi? Ça c'est quand la vanne elle est bien amenée. En tout cas, ce qui était super, c'était de voir l'engouement du public qui s'est vraiment passionné pour les exploits de ces sportifs exceptionnels. Et on embrasse évidemment toutes les personnes en situation de handicap qui ont souvent bien plus d'humour que nous, pauvres valides susceptibles, et qui nous donnent régulièrement de vraies leçons de vie.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est vrai. Qui dit mois de septembre dit rentrée scolaire, mais la rentrée scolaire, qu'est-ce que c'est Thierry?
Eh bien, c'est avant tout une délivrance pour les parents qui se sentent comme la Reine des Neiges, libérés, délivrés, mais ne jamais oublier que la rentrée scolaire, c'est un peu la Saint-Valentin des types qui se baladent avec des bonbons.
Oh, hein, c'est horrible.
Et qui sont à la recherche d'une relation gagnant-gagnant, si on met le traumatisme de côté, bien évidemment. Perso, je vous ai dit que j'irai un petit peu loin aujourd'hui.
Ah, mais là, tu vas trop loin.
Et perso, je voudrais féliciter les parents qui ont tenu bon durant tout cet été. Beaucoup d'entre nous ont fait preuve de grande sagesse et de responsabilité en se refusant d'abandonner leurs enfants sur une aire d'autoroute. Je vous cache pas que de mon côté, c'était vraiment limite. Hein, fallait pas que les syndicats de l'éducation nationale nous pondent une grève à la rentrée, parce qu'une semaine de plus, avec ma femme, on finissait dans l'émission « Faites rentrer l'accusé ». D'ailleurs, cet été, on avait décidé d'anticiper. Mmh. On s'est maté tous les documentaires liés à la famille Villemain depuis 84. C'était riche d'enseignements. On a pris des notes. Ça nous a pris tout l'été. Et après tout, on n'est pas plus cons que les habitants des Vosges, qu'elle m'a dit, la Virginie. 30 ans, toujours pas de coupable. Puis de toute façon, on aurait toujours bien fini par trouver une petite rousse à moitié attardée pour témoigner à la barre et qui aurait dit « Thierry, il est innocent ». En tout cas, avec ma femme, on est fiers. Hein, on est très fiers. On est passé tout près de l'irréparable, mais on a tenu bon. On a privilégié le dialogue. Voilà, on a appliqué la technique de communication d'Emmanuel Macron. Le 49-3. Hein, donc les enfants, tout le mois d'août, ont été enfermés dans leur chambre. On les a pas entendus. C'était merveilleux.
C'est horrible. Tu es horrible. Comme chaque année, la liste infernale des fournitures scolaires est un casse-tête pour tous les parents. Ouais. Car il faut tout trouver et surtout ne rien oublier.
Les fournitures scolaires, c'est un petit peu la quête du Graal, en fait. Hein. Chaque année, la liste des fournitures est tellement longue et complexe qu'on en dirait un défi qui aurait été lancé par un professeur qui s'emmerde, hein, ou par Jean Lassalle après l'apéro. Hein. De quoi se demander si tu prépares en fait un enfant pour l'école ou si tu équipes un cabinet de notaire. Alors, un stylo plume effaçable mais réinscriptible, une colle sans solvant mais qui colle assez fort pour recoller, et sans gluten, au cas où ton mioche serait à moitié con pour la bouffer. Oui, je sais, David, t'en as mangé pas plus tard que la semaine dernière.
J'avoue.
Et la trousse, est-ce qu'on en parle de la trousse, hein? Un objet hyper complexe dans lequel ton ado se reconnaît et impose une vision manichéenne de sa sexualité et qui tendrait à considérer les choses sous le prisme de l'opposition entre le bien et le mal. Bon, à l'époque, nous, on avait une trousse en toile. Hein, elle était comme notre institutrice. Elle était moche. Non. Elle sentait le plastique, mais elle faisait le job. Et puis, pour terminer en beauté, il y a ce grand classique avec le fameux classeur 4 anneaux. Mmh. On dirait un piège déjà le truc, hein, parce que t'achètes le classeur 4 anneaux et là, bam, le prof te demande d'acheter un classeur 2 anneaux, donc tu paniques, mais en format A5. Hein. Donc ce truc, c'est un peu comme l'Atlantide. On dit que ça existe, mais personne ne l'a jamais vu. L'instant décalé, c'est terminé. Merci de m'avoir écouté.
Bravo Thierry, bravo.
Merci à tous. C'était des moments un petit peu dégueulasses, mais vous me connaissez. Hein.
Oui. Mais c'est bien, bon. tu commences fort,
absolument. Tout de suite, on va retrouver toi, Léa, avec le pourquoi pas de Léa. Et on t'écoute.
Ce soir, vous écoutez Les Copains d'abord sur Agora Côte d'Azur.
Commencer cette première chronique de la saison en faisant un petit clin d'œil à tous nos athlètes qui ont participé aux JO et qui ont tout donné, mais aussi à tous ceux qui ont énormément transpiré cet été, tout corps de métier confondu, ou encore tous ceux comme moi qui transpirent tout au long de l'année, mais pas pour les mêmes raisons, puisque me concernant, et c'est
toi,
un fait de hasard.
Tu sais te vendre.
Exactement, mais t'en parlais tout à l'heure, c'est plutôt la préménopause et le stress que le travail et le sport, me concernant. Alors ce soir, vous l'aurez compris, on plonge dans le cauchemar des auréoles sous les aisselles et des mains moites. Je vous parle bien sûr de la
transpiration.
Merci. Mais avant de creuser le sujet,
il y en a deux qui suivent, hein, sur quatre. Carole s'est complètement endormie.
Elle me regarde avec
et
des William yeux.
Qu'est-ce qu'elle va nous dire?
Non, parce que tu montrais notre invité, alors je me suis dit non, on va quand même pas dire lui.
C'est moi qui montrais l'invité?
Oui, parce que t'as fait comme ça.
Ah oui, mais je parlais. Voilà. Alors justement, avant de creuser sur ce sujet et de participer à un petit quiz, est-ce que vous transpirez? Et si oui, ou quand, comment? Alors Thierry, Carole, David, William, vous commencer, qui veut
moi, je sais pas
parler
si je transpire, mais
sans rentrer dans les détails, on va faire
si
bref.
Je transpire, mais j'utilise un stick pour les bras, voilà.
D'accord, donc toi, éventuellement, c'est sous les aisselles.
Voilà.
Thierry,
moi, je transpire pas des masses, en fait, et pourtant, je fais du sport, donc j'ai beaucoup de chance.
Monsieur Boulard, ok, on il fallait que je la place,
pardonnez-moi. On peut la faire, hein. je sens mes graves, je sens le port. Hein.
Non, mais comme tu fais beaucoup de sport, t'as tendance à beaucoup transpirer, donc effectivement, le reste du temps, tu... Exactement. Carole?
Oui, moi, non, je ne transpire pas, je... Bon, c'est une blague. Si, en fait.
Elle transpire, mais du cortex,
oui,
je pense, hein, du cerveau.
Ça, c'est ça. Non, sous les bras, où vous voulez.
Oui, d'accord.
Bon, on appelle pas ça la transpiration, ça porte un autre nom, mais on fera ça sur une prochaine chronique.
William, tu veux en parler un petit peu?
Dans le sport, et quand on fait du sport, on transpire.
Oui,
mais on transpire pas suffisamment. On transpire plus quand on est plus jeune, en fait. D'accord. Avec l'âge, on transpire moins.
C'est vrai.
Et c'est bien de, ou d'en faire plus, ou c'est pour ça que souvent, après, c'est le sauna, hammam, etc., qui permet d'éliminer un peu plus.
Un maximum. C'est un message d'espoir pour tous ceux qui transpirent comme des fous. Ils se disent, dans quelques années,
ça va aller
ça
bien.
Ira bien.
Ça ira bien, exactement. Alors, après ces confidences extrêmement passionnantes, intimes et ruisselantes, voici le quiz. Alors, première question, à votre avis, combien de millilitres ou de litres transpire-t-on par jour ? 100 millilitres, 500 millilitres, 1 litre ou 8 litres par jour ?
500 millilitres.
1 litre.
Un litre, 500 millilitres.
Un litre.
500.
Donc non, on est entre 1 et 8 litres. Donc la transpiration dépend bien sûr de la température extérieure et de l'activité physique. Mais en moyenne, un adulte transpirait entre 500 millilitres et 1 litre par jour et jusqu'à 8 à 10 litres avec beaucoup d'exercice.
Donc là, faut se balader avec une serpillière, quoi. On est d'accord.
En gros.
Deux serpillières que tu te cales sous les bras, t'es peinard.
C'est ça. Selon vous, quelle est la partie du corps qui transpire le plus ? L'intérieur du genou, la moustache, entre les seins, la plante des pieds, le front, les aisselles.
Je rêve que ce soit entre les seins.
Entre les seins, ça m'aurait pas étonné de toi, David. Hein.
Les aisselles.
Moi, j'aurais dit les aisselles aussi.
Oui, moi aussi, les aisselles. Okay.
Alors, les parties les plus souvent touchées sont les paumes des mains, à 20% de la population. Et après, la plante des pieds, le front et les aisselles, effectivement, sont à peu près...
Sur des stats équivalentes.
Exactement, merci. Et pour la petite info, la transpiration dans ces zones est généralement liée à l'anxiété, l'excitation, la colère ou la peur. Mmh. Voilà, il y a l'exercice, il y a le sport, mais il y a aussi tout ça.
C'est pas faux.
Voilà, sinon vous endormez, vous êtes avec
moi.
Non, d'accord. Vous êtes attentif, en fait.
Oui, on apprend des choses.
Je pensais que c'est vrai, ça s'appelle la cravate de notaire, la transpiration, entre les seins.
Merci beaucoup, David.
Écoute, j'ai justement la cravate de notaire, là, en ce moment.
Alors, question suivante. Quel est le sport qui fait le plus transpirer ? La boxe, la course à pied, la corde à sauter ou le hand ?
J'en dis la piscine.
Piscine.
Corde à sauter.
La boxe.
La boxe. Alors, effectivement,
c'était pour déconner, la piscine.
Oui, oui, je me doute. Alors, c'est la corde à sauter. 15 minutes de corde à sauter équivaut à 30 minutes de course, selon l'intensité et l'effort. Et il est vrai que la boxe... c'est le sport, en fait, mais qui est dit le plus épuisant.
Ah,
voilà.
D'accord.
Pas forcément...
Donc, finalement, le décathlon, William, franchement. Ouais, je sais même pas pourquoi on en a parlé.
Comment appelle-t-on la maladie qui touche 3% de la population et qui provoque de l'hypersudation ou une transpiration excessive ? Est-ce que c'est l'hypergoutose, l'hyperhidrose ou le diapnophobie ?
L'hyperhoudrose.
Moi, je dirais diapnophobie.
Hyperhoudrose.
Hyperhudrose, Carole.
Mmh, moi, je suis d'accord avec
Carole.
Carole,
elle n'a pas d'avis.
Carole, elle prend jamais de risque.
Donc, effectivement, ça s'appelle l'hyperhidrose. Il y a 3% de la population, donc je le disais, qui sont touchés par cette maladie. Et pour la petite info, la diapnophobie, est-ce que vous savez ce que ça veut dire ?
Ah, non, j'allais justement te le demander. Non,
voilà.
Pas du tout,
donc,
pas.
Ça désigne en fait la peur de la transpiration, tout simplement.
Ah,
et une personne atteinte de cette phobie évitera bien sûr en général les efforts pour ne pas suer.
Et par contre, comme on a dit que le stress favorisait la transpiration, en fait, c'est pour le type qui souffre de ça, c'est l'enfer.
Ah, c'est l'enfer.
Faut pas que je transpire, mec. Bah
oui, du coup,
je me trompe ou on peut se faire opérer de
la transpiration. Oui. Alors oui, mais pas sur toutes les parties. En fait, c'est essentiellement sous les aisselles. Il y a, effectivement
des
techniques.
C'est un petit peu radical, William, je te l'accorde, mais en même temps, c'est super efficace.
Comme ça, tu peux faire les compètes de natation avec ton ami brésilien.
Avec d'autres fantômes.
À votre avis, quels sont les aliments qui peuvent modifier l'odeur de la transpiration ? Le poireau, la vodka, l'ail, la banane, l'oignon ?
Poireau.
L'oignon.
L'oignon, ouais, j'aurais dit l'oignon aussi.
Carole ?
Ouais, va dire l'oignon aussi, je pense, Carole.
Je pense l'oignon,
ouais.
Il y avait plusieurs réponses possibles, mais effectivement, les aliments qui modifient la composition de la sueur sont effectivement les épices, l'ail et l'oignon essentiellement, mais il y a également le tabac qui modifie les bactéries présentes sur la peau et dont la digestion de la transpiration.
Mais okay. Écoute, je mange pas d'oignons, c'est parfait. C'est parfait.
Je vais me taire. Dernière question, on terminera là-dessus. Combien de déodorants, à votre avis, sont vendus en France chaque année ? 78 millions, 120 millions ou 160 millions ?
78 millions, parce que c'est comme les brosses à dents.
Oui.
78 millions.
Les Français sont sales, donc à moi, ça ne dépasse pas les 78.
Ouais, okay. moi,
j'aurais mis le max, là, t'as dit quoi ?
Ouais, c'est... 160 millions ?
Le minimum, 78.
78 ouais. Au minimum. Voilà. Alors, en 2023, environ 160 millions de déodorants ont été vendus en France.
Pourquoi j'ai une bonne réponse ?
Les plus gros consommateurs au monde, est-ce que vous savez, c'est dans quel pays ? De déodorants, parce que nous, on est classés, mais on n'est
pas
en France.
Eh ben non, justement.
Pas... C'est les derniers, les Chinois, c'est ça?
Ben oui, parce qu'apparemment, au niveau de la génétique, il y aurait quelque chose. Enfin, j'ai lu quelque chose là-dessus, mais là, je ne développerai pas le
comme
sujet.
Comme c'est pas une émission de 3 heures.
Mais... Voilà, exactement. Donc, en fait, les pays asiatiques, c'est ceux qui utilisent le moins, parce que c'est ceux qui.
Ils n'ont pas de
poils. Voilà, mais ce qui est complètement paradoxal, déjà. Parce qu'ils mangent épicé. Donc, ouais. Bon, bref, on ne saura pas tout à fait la vérité sur ce sujet. En tout cas, ce sont les Américains qui sont les plus gros consommateurs du monde de déodorants. Et la petite info en plus, puisque vous savez toujours que j'aime creuser. Le premier déodorant qui a été inventé, c'est aux États-Unis en 1888 par la marque Mum.
Merci Mum.
Voilà. Alors, et on terminera là-dessus. N'oublions pas qu'il existe quelques remèdes pour lutter contre la transpiration, donc apprendre à se détendre, l'homéopathie, l'hydratation, le sport. Il existe également des vêtements antitranspirants et également des patchs en coton à mettre sous les bras pour éviter les auréoles.
Voilà, donc, le mieux, c'est vraiment de se mettre la totale en fait.
Ouais, c'était bien quoi.
C'est une marque d'huile, non? L'huile de la sueur, non?
Ça marche pas non plus. Allez, on se quitte sur les doux mots de celui qui perdait jusqu'à 5 kilos par concert. Jacques Brel, qui disait envie de réaliser un rêve, c'est le talent, et tout le reste, c'est de la sueur. Lui qui a si souvent mouillé la chemise, lui qui transpirait de talent et qui aujourd'hui porte l'auréole sur la tête.
Joli, pas de chronique, Valéa, bravo.
Merci, merci. Bravo. Alors, vous savez tout sur la transpiration dès à présent, et je n'en dirai pas plus.
On arrive au terme de cette émission, on espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous avons eu de plaisir à vous distraire. Mm-hmm. Je voudrais tout d'abord remercier notre invité de ce soir, William Motti.
Merci à vous.
Le plaisir de nous accompagner durant cette petite heure. Nous te souhaitons évidemment le meilleur pour la suite. Évidemment, on reste en contact.
Oui, je vous attends sur le stade.
Exactement, oui. On va venir, c'est promis. Je remercie donc la team avec Carole, Léa, notre David.
Yeah.
Une petite pensée pour notre Laura.
Oui, qui
nous a quittés pour cette année, mais qui nous a quittés au second degré. On voudrait rassurer ses proches. Et on va évidemment remercier Nancy, notre réalisatrice, qui est derrière les manettes de cette émission. On remercie également nos fidèles auditeurs, auditrices et tous ceux qui nous ont rejoints ce soir. On vous souhaite une excellente fin de soirée. On vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour une toute nouvelle émission des Copains d'abord. D'ici là, prenez bien soin de vous.
C'était Les Copains d'abord, présenté par Thierry. Réalisé par Nancy Zottier pour Agora Côte d'Azur. Émission à retrouver en podcast sur agoracôtedazur.fr.